Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Un monde sans insectes, à qui la faute? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui, car force est de constater qu'il est loin le temps où, sur la route, les pare-brises des véhicules témoignaient de la vivacité de la biodiversité, de ce monde bourdonnant qui nous entourait. Aujourd'hui, le silence des insectes a ému l'opinion publique, suscité des appels de chercheurs, de scientifiques et des campagnes anti-intrants chimiques. Mais quels mécanismes sont réellement à l'œuvre derrière ce désastre écologique? Quelles sont les responsabilités établies et les solutions envisagées pour stopper le phénomène inquiétant, y compris pour les agriculteurs qui ont besoin de ces pollinisateurs? Quelles responsabilités incombent à l'industrie chimique et à l'usage des pesticides? Comment le monde agricole agit ou peut agir sur ce terrain aux côtés des instances sanitaires et des décideurs politiques? Réponse avec nos invités, le journaliste du Monde Stéphane Foucard. Bonjour.
Bonjour.
Présent pour votre dernier livre qui s'intitule « Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes », un livre paru aux éditions du Seuil. En duplex également avec nous depuis France Bleu La Rochelle, Vincent Albouy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entomologiste, ancien président de l'Office pour les insectes et leur environnement, l'OPI, et co-auteur notamment du livre « Les insectes en bord de chemin », un livre paru chez Delachaux et Niesley. Et en seconde partie d'émission, dans l'œil du monde planète, le journaliste Stéphane Mandard reviendra sur son enquête menée en Andalousie et sa plongée dans l'enfer des serres de tomates bio. C'est le choix info de la semaine. Et enfin, l'escale verte nous emmènera à Biarritz, où, avec le directeur du Centre de la mer, Iker Castège, nous prendrons le pouls de la biodiversité du golfe de Gascogne, entre richesses insoupçonnées et pression. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement sur France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la complicité de Anne Gouzon, Valérie Arnoux, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Jean-Frédéric et à La Rochelle, Pierre Debuiche.
30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère, de la honte. De la honte de savoir que derrière la sixième extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Et que plus l'on réduit la biodiversité, plus l'on réduit nos options pour faire face à l'avenir. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Eh bien, je vous le dis, tout seul, je n'y arriverai pas. Oui, je vais vous présenter un plan biodiversité dans les semaines qui viennent, qui va succéder à la stratégie de la biodiversité. Mais très sincèrement, tout le monde s'en fiche, à part quelques-uns. Donc je veux simplement avoir un sursaut d'indignation et de réaction, parce que l'humanité a une communauté d'origine avec le vivant et elle a une communauté de destin avec le vivant. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Merci.
Vous aurez sûrement reconnu cette voix, Nicolas Hulot, c'était le 21 mars à l'Assemblée nationale, le 21 mars 2018. Moment fort avec un ministre d'État français de l'Environnement, sous le coup de l'émotion, on l'entend, face à la biodiversité mise à mal. Et puis ce constat, Stéphane Foucard, d'un monde politique qui n'arrive pas à enrayer l'hémorragie pour différentes raisons. On sent que c'est aussi l'objet de l'enquête que vous avez menée, du livre que vous nous proposez, retracer les débuts de l'extinction des insectes et comprendre les mécanismes, mais aussi aller chercher les responsables.
Oui, alors le début de l'érosion de la biodiversité, de l'abondance des insectes, c'est quelque chose qui remonte quand même à un certain temps. Ce que les spécialistes de ces questions notent, c'est une accélération très forte du phénomène depuis les années 90. Accélération très forte qui coïncide parfaitement avec l'introduction de nouvelles technologies de protection des cultures, de nouveaux pesticides, qu'on appelle les néonicotinoïdes. C'est difficile à prononcer, souvent les journalistes disent des tueurs d'abeilles. Et ces néonicotinoïdes ont pour caractéristique d'être parmi les produits les plus puissants, les plus efficaces, jamais synthétisés par l'homme pour tuer des insectes. Pour vous simplement fixer les idées et donner quelques ordres de grandeur, la principale molécule de cette famille chimique, l'imidaclopride, qui était la première à être commercialisée, eh bien avec 1 gramme d'imidaclopride, vous tuez autant d'abeilles qu'avec 7 kilos de DDT. Donc quelque chose que vous ne sentez pas ou à peine au creux de votre main a un potentiel de destruction qui est comparable, identique, à 7 kilos d'une autre molécule qui a été bannie dans les années 70, 7 kilos, quelque chose que vous ne tiendriez pas à bout de bras.
Donc, oui, le DDT, ça renvoie au combat notamment de Rachel Carson, cette biologiste et journaliste américaine, et c'était en, je crois, 1963 où paraissait son livre,
Printemps silencieux.
Et des années auparavant, elle avait mené cette bataille parce qu'elle s'était rendue compte à ce moment-là, donc les années 60, que le DDT causait la disparition des oiseaux dans les campagnes.
Absolument, d'ailleurs c'est intéressant, d'un point de vue de l'histoire de la régulation des toxiques, ce sont essentiellement des effets environnementaux qui ont conduit à la suppression, au retrait du marché, non seulement du DDT, mais de toute cette famille de pesticides qu'on appelle les organochlorés. Par exemple, le chlordécone, ce fameux pesticide qui imprègne les Antilles françaises, appartient à cette famille de toxiques. Et donc, c'est pour des raisons environnementales que cette famille de toxiques a été progressivement retirée du marché à partir des années 70. Et on se rend compte aujourd'hui, 40, 50 ans plus tard, qu'elles ont certainement eu un impact très fort sur la santé publique, impact simplement qu'on n'a pas réussi à détecter avec les études dont on disposait à l'époque.
Alors je précise quand même pour nos auditeurs, et je vais me tourner dans un instant vers Vincent Albouy, entomologiste, je précise que nous avons contacté des chercheurs, des personnes aussi à l'ANSES, à l'INRA, à la FNSEA. Pas de candidats disponibles pour cette discussion sur le sujet aujourd'hui. Est-ce un thème tabou, Stéphane Foucard, ou est-ce que vous-même vous faites peur à certains d'invités potentiels?
Je crois sincèrement que derrière cette histoire de néonicotinoïdes et d'effondrement des populations d'insectes, et on le verra peut-être tout à l'heure du reste, en tout cas d'une partie du vivant, il y a une faillite profonde de l'expertise publique, probablement aussi d'une certaine manière de la recherche publique, et il ne faut pas se voiler la face, c'est aussi une faillite profonde des médias, qui n'ont pas été capables de faire la part des choses assez rapidement pour informer le public à partir des données dont on disposait déjà depuis le début des années 2000. De mon point de vue, c'est un petit peu le résultat d'une sorte de faillite systémique de tous les compartiments de la société qui devraient, par leur activité professionnelle, nous permettre d'éviter ce genre de situation.
Vincent Albouy, cet effondrement aujourd'hui, il est documenté, l'état des lieux... On le fait, et il est dramatique. Vous le voyez, vous, dans votre métier d'entomologiste et de spécialiste sur le terrain?
Moi, j'ai remarqué l'effondrement des populations d'insectes. Au début des années 2000, ça a été très net. On ne peut pas fermer les yeux. Il y a effectivement de moins en moins d'insectes qui volent et c'est visible pour quasiment tout le monde. Malheureusement, c'est pas visible pour les très jeunes générations. Moi, j'ai un petit-fils qui a 5 ans, 6 ans maintenant. Il n'a jamais connu autre chose que 2-3 papillons qui volent en même temps. Pour lui, ce sera le summum de la biodiversité. Alors que moi, à mon époque, dans les années 60-70, c'était 200-300. Et probablement, à l'époque de mon père, à la fin des années 30, c'était 2000-3000. Donc on voit qu'on a énormément perdu.
Alors pour bien comprendre l'état des lieux et cet effondrement, je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 2 dans le journal de 13h le 12 février 2019.
Verrons-nous un jour des ruisseaux sans libellules, des fleurs sans papillons, des régions entières sans le moindre scarabée, ou même des champs que plus aucune abeille ne butine? Une extinction aussi massive des insectes n'est plus un scénario de science-fiction, mais bien une réalité. 40% des espèces d'insectes sont aujourd'hui en déclin, un signal qui interpelle toute la communauté scientifique.
C'est très choquant pour être honnête. Pour l'instant, nous avons surtout des données en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais on a toutes les raisons de penser que le même type de phénomène a lieu partout dans le monde.
Parmi les espèces les plus menacées, les abeilles, dont la surmortalité met tous les apiculteurs en émoi. En cause, l'utilisation de pesticides comme les néonicotinoïdes, mais aussi la perte d'habitat des insectes liés aux activités humaines et au dérèglement climatique. Toutes espèces confondues, les populations d'insectes diminuent aujourd'hui de 2,5% par an. Il y a quelques mois, en Allemagne, ces scientifiques ont ainsi recensé 76% d'insectes de moins qu'il y a 30 ans.
En regardant toutes les données, c'est une vraie désertification. On dépasse vraiment les 75%. L'été, c'est encore pire. On dépasse les 80% de pertes.
C'est dramatique.
Oui.
Un déclin que les chercheurs n'hésitent plus à comparer à la disparition des dinosaures, car il menace aussi la survie des oiseaux ou des reptiles qui se nourrissent de ces insectes et compromet la pollinisation de toutes nos cultures. Pour le stopper, les scientifiques préconisent donc, par exemple, d'interdire sans tarder la plupart des pesticides.
Stéphane Foucard, si on comprend bien, donc en 30 ans, près de 40% des espèces d'insectes ont décliné. et plus de 30% sont en voie d'extinction. Un effondrement, comme vous le racontez, qui se fait en silence, on l'a compris, et qui secoue quand même l'ensemble de la société. On voit bien hein, dès qu'il y a ce sujet-là. Car nous dépendons, il faut peut-être le rappeler, nous dépendons de tous ces insectes pour notre propre survie.
Ah oui, je parle sous le contrôle de Vincent Albouy, mais les insectes, c'est bien évidemment énormément de services écosystémiques rendus aux sociétés humaines, en particulier la pollinisation, hein, comme vous l'avez rappelé. Mais pas seulement, il y a aussi le simple fait que énormément d'organismes, pour leur nourriture, hein, se reposent sur les insectes qui forment l'un des socles des chaînes alimentaires des écosystèmes terrestres. Donc c'est pas seulement une branche de l'arbre qu'on est en train de couper, c'est-à-dire qu'on est en train de couper l'arbre à la base.
Vincent Albouy, sur ces questions-là.
Cet équilibre qui est en train de flancher. On peut citer le cas du moineau de Paris. C'était le piaf à mon époque, quand j'étais jeune, c'était l'oiseau avec le pigeon de Paris. Et si vous vous promenez maintenant dans Paris, vous voyez des pigeons toujours, mais des corneilles et quasiment plus de moineaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins d'insectes à manger et le moineau élève ses jeunes avec des insectes. Par contre, les corneilles, elles élèvent leurs jeunes avec des petits pigeons pillés au nid ou avec des cadavres trouvé au bord de la route, voire avec un reste de hamburger trouvé dans une poubelle, et donc elle n'a pas de problème pour survivre en ville. Donc on voit bien que toutes les chaînes alimentaires vont être modifiées si l'effondrement des insectes continue comme ça.
Est-ce que vous diriez, Vincent Albouy, que finalement pour les abeilles domestiques, bon, les apiculteurs s'organisent, même si c'est dramatique hein, de perdre des ruches et donc les colonies, mais pour les pollinisateurs sauvages et le reste des vertébrés, l'avenir est beaucoup plus sombre?
Oui, les pollinisateurs sauvages sont en première ligne. On n'a pas parlé comment ça fonctionne, les néonicotinoïdes. C'est pas vraiment au moment où on les dépose qu'il y a le problème, puisque souvent ça fonctionne en enrobage de semences, donc ça ne concerne pas les pollinisateurs. Simplement, ces molécules sont systémiques, c'est-à-dire passent dans la sève des plantes, donc vont aller ensuite dans les fleurs, dans le nectar, dans le pollen, et c'est en butinant ces fleurs contaminées que les pollinisateurs vont eux-mêmes se contaminer. Et en plus, ce sont des molécules qui persistent longtemps. Donc 2, 3, 4 ans après la culture qui a été enrobée, on aura toujours ces molécules dans le sol qui vont passer dans les plantes cultivées ou sauvages qui seront sur ce terrain à ce moment-là. Donc on voit que leur caractère néfaste, c'est pas seulement l'année où on les met, mais c'est pour plusieurs années, c'est-à-dire on a empoisonné nos sols. D'ailleurs, c'est un problème scientifique général. Je n'ai jamais trouvé aucun travail scientifique qui essaye de calculer quel est le taux d'empoisonnement de nos sols, puisqu'il fait 75 ans qu'on met des molécules chimiques depuis le DDT, qui forcément s'accumulent puisqu'elles ne se détruisent pas dans les mois qui viennent. Et on ne sait pas à quel niveau on est. C'est un peu comme les océans qui recrachent maintenant du plastique parce qu'ils sont trop pleins de plastique. Nos sols doivent être bourrés de molécules toxiques, mais on n'a aucun moyen, ou en tout cas, à ma connaissance, personne n'a calculé cette accumulation de toxiques qui peut exister dans les sols.
Stéphane Foucard.
Il y a tout récemment, au début 2019, des chercheurs suisses qui ont essayé de conduire cet exercice sur un échantillon de sol agricole de la Confédération helvétique hein, et qui ont uniquement regardé la teneur en néonicotinoïdes dans les sols échantillonnés. Le résultat, et c'est quelque chose d'absolument frappant, c'est qu'on retrouve des néonicotinoïdes sur toutes les terres des exploitations conventionnelles. On en retrouve dans 80% des échantillons prélevés sur les sols des exploitations qui sont conduites en agriculture biologique. Ce qui veut dire qu'il y a des mécanismes de contamination qu'on n'a pas encore complètement documentés qui font que ces sols-là, qui n'ont subi aucun traitement de phytosanitaire de synthèse depuis 10 ans, se retrouvent avec des niveaux mesurables de néonicotinoïdes. Et plus inquiétant encore, des zones d'intérêt écologique, hein, qui sont en gros des zones là où on fait très très peu de culture et où il y a là pour le coup aucun intrant d'aucune sorte, eh bien il y en a une grande partie, 80% également, qui sont contaminés par des néonicotinoïdes. Et quand on regarde les concentrations, parce qu'on peut se dire, bon, c'est des toutes petites traces, ça ne changera pas grand-chose. Quand on regarde les concentrations, eh bien sur les sols des exploitations conduites en agriculture conventionnelle, les 50% des espèces bénéfiques testées sont susceptibles de subir des effets sublétaux des concentrations résiduelles qui sont retrouvées dans le sol. Donc c'est pour une seule molécule. Donc c'est une énorme catastrophe.
C'est une contamination de tous les sols finalement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Tout à fait. Et on n'a pas idée de l'augmentation de la charge toxique de l'agriculture moderne, telle qu'elle a évolué au cours des 20 ou 25 dernières années. Et là encore, c'est une étude qui vient tout juste de paraître. Il y a des chercheurs qui ont fait une analyse d'une simplicité absolument désarmante. Ils ont regardé la quantité de matière active d'insecticides utilisés dans l'agriculture américaine chaque année. Et ils ont modulé ce chiffre par la toxicité aiguë de ces matières actives et leur rémanence dans l'environnement. Le résultat, c'est que la charge toxique pour les insectes de l'agriculture américaine a été multiplié par 58 pas par 3 ou par 4 ou même par 10, par 58 entre 1992 et 2014.
On se demande comment on a pu arriver à ce constat-là. Est-ce que on peut dire, Stéphane Foucard, qu'aujourd'hui, donc des chercheurs font des études, documentent, renseignent, qu'on a suffisamment de renseignements pour savoir qui ou quels sont les responsables de l'effondrement des insectes, hein, de cette biodiversité, et qu'en face, il y a un monde qui s'arc-boute et qui utilise une fabrique du doute pour faire en sorte qu'on ne puisse pas agir. On en est là, on se pose quand même la question de pourquoi on ne prend pas, comme on le sait, les décisions définitives sur tel ou tel produit.
C'est une question qu'il faut poser aux régulateurs européens, puisque les régulateurs européens ont décidé le 17 juillet, de ne pas changer fondamentalement, de ne pas changer de fond en comble les tests réglementaires qui permettent l'autorisation de mise sur le marché des pesticides.
En sachant qu'ils sont faibles, c'est-à-dire, j'allais dire laxistes, mais ce sont des tests réglementaires qui ne sont pas à hauteur pour les chercheurs, en tout cas, c'est ça. Ils ne sont pas suffisamment élevés ou avec des conditions suffisamment élevées pour interdire les néonicotinoïdes.
Dire qu'ils sont faibles, c'est déjà une litote. En fait, ils sont aveugles, c'est ça. Vincent Albouy parlait tout à l'heure des pollinisateurs sauvages. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un insecticide qui va être utilisé sur des millions d'hectares de grandes cultures n'est pas testé pour sa dangerosité sur des pollinisateurs sauvages. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne documente pas, la réglementation ne prévoit pas de documenter l'effet de ces produits sur les pollinisateurs sauvages. Les seuls tests qui existent et qui sont d'une faiblesse insigne sont les tests de toxicité aiguë sur l'abeille domestique adulte.
Et pourtant, ça fait partie des demandes de l'EFSA, c'est-à-dire l'Agence sanitaire européenne aujourd'hui.
Alors non seulement ça fait partie des demandes de l'EFSA, mais ce sont des demandes que l'EFSA a formulées dès 2012, donc il y a 7 ans. Et si on remonte plus loin encore dans le temps, en 2003, un premier rapport d'experts français avait été rendu, hein, le rapport du comité scientifique et technique de l'étude multifactorielle des déclins d'abeilles. C'était des experts qui étaient mandatés par le ministère de l'Agriculture, c'était des experts officiels, entre guillemets. Hein. Leur rapport ne faisait absolument pas mystère du fait que les tests réglementaires étaient incapables de décrire, de documenter correctement les effets de ces nouvelles générations de pesticides sur les abeilles.
Vincent Albouy, sur ces questions-là, sur ce que Stéphane Foucard nomme la fabrique du doute, en prenant d'ailleurs pour comparaison les firmes du tabac à leur époque.
Oui, il y a le fait qu'on ait du mal à attribuer, parce qu'il faut reconnaître que quand même la disparition des insectes, il y a d'autres facteurs que les pesticides. Donc c'est toujours simple d'accuser les autres facteurs plutôt que de travailler sur les pesticides.
Alors les autres facteurs, c'est quoi? Parce que c'est vrai que
la disparition des milieux naturels ou semi-naturels, maintenant quand vous avez des parcelles de plusieurs dizaines, voire centaines d'hectares d'un seul tenant, il n'y a plus les herbes sauvages de bord de champ qu'il y avait avant. De toute façon, quand il y a encore des bords de champ avec des herbes, elles sont souvent traitées au glyphosate aussi pour faire propre, entre guillemets. On broie systématiquement, même quand on met en jachère et qu'on laisse pousser la flore sauvage, les règlements européens imposent de broyer avant la floraison, ou au moins avant la mise en graine. Donc de toute façon, le peu d'intérêt que ça peut avoir pour la faune sauvage, c'est immédiatement contrecarré par ça. Enfin, il y a l'expansion de l'être humain qui a de plus en plus d'autoroutes, de voies de chemin de fer, de tourisme sur les côtes, les agglomérations s'étendent. Enfin, voilà, on prend de plus en plus de place et il y a de moins en moins de place pour la nature, donc pour les insectes, mais pas que pour les insectes. C'est toute la nature qui souffre, évidemment.
Stéphane Foucard, c'est vrai qu'on entend hein, ce cocktail aussi de responsables, ce qui n'empêche pas de pouvoir trouver des solutions à chaque niveau et de au moins protéger cette biodiversité.
Oui, bien sûr.
Mais ce que vous dites, c'est une vulgate finalement, ça brouille.
Ce discours sur la multifactorialité, évidemment que c'est multifactoriel, mais de la même manière que le cancer du poumon est multifactoriel. C'est pas uniquement le tabac qui est le responsable du cancer du poumon, mais on voit bien que si vous retirez de l'équation la cigarette, vous avez résolu quand même une grande part du problème. Pour revenir deux minutes sur cette fameuse étude allemande qui a été conduite là, sur 63 zones protégées et qui montre un déclin de l'abondance, du poids hein, des insectes volant capturé, un déclin de 75% en 27 ans, entre 89 et 2016. C'est une étude dont, à mon avis, la force et l'intérêt reposent pas uniquement sur cette conclusion quantitative, mais aussi sur le travail qualitatif qui a été fait. Parce que sur ces zones protégées, les chercheurs, année après année, ont relevé les variations de température, les variations du nombre de jours de gel, la disponibilité en eau, la teneur d'azote dans les sols, la présence ou non d'éclairage nocturne. Bref, toute une variété de paramètres que très fréquemment, on met sur la table en disant, ben voyez, il y a aussi plein d'autres raisons que les pesticides ou les néonicotinoïdes.
Donc ils ont travaillé sur le cocktail, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement, ils ont cherché des corrélations qui pourraient expliquer le déclin énorme qu'ils observaient. Et aucun des paramètres qui a été examiné n'est capable d'expliquer ne serait-ce qu'une petite partie de ces 75% de déclin d'abondance des insectes volants. Finalement, le seul paramètre qui n'a pas pu être examiné par les chercheurs, c'est la nature des intrants qui étaient utilisés autour de ces zones protégées. Mais, encore une fois, la quantité d'azote, le changement climatique, l'habitat, ils ont regardé la végétation dans ces zones protégées. Rien de tout ça, évidemment, il y a des choses qui permettent d'expliquer une petite partie, mais en tout cas, rien de tout ça, ni même la somme de tout ça, n'était capable d'expliquer le déclin énorme qu'on observe.
Alors, bien sûr, dans ce cadre-là, il y a l'agrochimie et ses intrants chimiques. Je vous propose d'écouter tout d'abord ce reportage diffusé sur France 2 le 20 octobre 2017, avant de nous plonger dans que fait-on de ce côté-là.
Mauvaise nouvelle pour les apiculteurs. Ils ont appris que deux nouveaux insecticides, le Transform et le Closer, viennent d'être autorisés en France. Ces professionnels les estiment dangereux pour les abeilles, mais quelle est donc la substance incriminée ? Son principe actif, le sulfoxaflor, aurait selon eux le même mode d'action que les néonicotinoïdes. Des substances toxiques qui seront interdites dès l'an prochain et qui s'attaquent au système nerveux des abeilles.
Le sulfoxaflor est un néonicotinoïde parce que sa formule chimique, son profil chimique, correspond tout à fait au profil de l'ensemble des néonicotinoïdes qui ont tous le même profil.
Qui a signé en France l'autorisation de ces insecticides ? C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Comme le groupe d'agrochimie américain qui les commercialise, elle considère que...
Si le sulfoxaflor a le même mode d'action, il n'appartient pas à la même famille chimique que les néonicotinoïdes. Surtout, il se différencie par sa faible persistance dans les sols et les plantes. Ses métabolites ne sont pas toxiques pour les insectes.
Les apiculteurs en appellent désormais à Nicolas Hulot pour interdire cette nouvelle substance. Alors que la profession est en crise depuis des années et que la prochaine production de miel s'annonce catastrophique.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Stéphane Foucard et ensuite Vincent Albouy sur ces questions-là.
Il y a quelque chose de très grave dans cette histoire, c'est que la confiance est rompue. Comment pouvez-vous donner du crédit à la parole d'autorités sanitaires qui ont permis la mise sur le marché de produits qu'ils sont contraints de retirer quelques années plus tard en catastrophe avec les effets qu'on peut observer aujourd'hui ? Comment continuer à faire confiance dans le système réglementaire ? C'est une question très grave.
Vincent Albouy ?
C'est un grand classique de l'histoire des pesticides depuis 70 ans maintenant. Quand une molécule est devenue trop dangereuse et a trop mauvaise réputation, on l'interdit, mais elle est remplacée par une autre qui, généralement, hein, le DDT, après il y a eu l'indane, il y a eu les pyréthrénoïdes, après, enfin, etc. Et puis, il y a aussi le problème des lobbies. Il y a deux lobbies principaux qui sont pour les pesticides. C'est les fabricants, évidemment, et puis c'est les utilisateurs professionnels, les agriculteurs. Et si on regarde qui fait du lobby pourquoi, on voit qu'actuellement, pour les vieilles molécules, on va dire néonicotinoïdes des années 90, les fabricants ont arrêté parce que ça tombe dans le domaine public, c'est les Chinois qui fabriquent. Donc ils n'ont plus intérêt, eux ils ont intérêt justement à avoir des nouvelles molécules sur lesquelles ils ont le brevet et sur lesquelles ils vont gagner beaucoup d'argent. Par contre, les agriculteurs, c'est eux qui font plutôt le forcing sur ces vieilles molécules, sur le glyphosate, etc. parce que eux ont des habitudes d'utilisation et ont du mal à en changer. Donc c'est très compliqué, mais de toute façon, c'est toujours, on se retrouve avec une nouvelle molécule qui, soi-disant, n'aura pas d'effet toxique. Parce que je rappelle quand même que quand les néonicotinoïdes sont arrivés, c'était en enrobage de semences, donc pas de contact avec les abeilles, aucun souci, pas de problème. Et on voit 20 ans plus tard que c'est une catastrophe.
Stéphane Foucard, est-ce que vous avez rencontré dans votre enquête des chercheurs qui ont vu leurs alertes enterrées, leurs études édulcorées, et qui ont pu même, pourquoi pas, être sanctionnés ou pâtir de ce qu'ils révélaient ?
Bien sûr, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles les chercheurs sont en général extrêmement prudents dans leur parole publique quand ils parlent de ces sujets, y compris lorsque ce sont des sujets sur lesquels eux-mêmes ont travaillé et publié. Je raconte un certain nombre d'histoires de gens qui ont perdu leur emploi aux États-Unis, au Canada, en France, où il y a des chercheurs qui étaient affiliés à l'INRA, qui ont été saqués pour simplement avoir prétendu que les insecticides nuisaient aux insectes.
Vincent Albouy.
Je me souviens, dans les années 70 et 80, il y a un chercheur de l'INRA qui s'appelait Francis Chaboussou, je ne sais pas s'il est encore vivant. Mais en tout cas, il a fait des études très précises qui ont montré que s'il y avait beaucoup de pucerons sur les cultures modernes, c'est parce que on les nourrissait avec des nitrates chimiques et que ça modifiait l'équilibre de la sève et que ça favorisait les pucerons. Donc en gros, il avait une solution anti-pucerons qui était radicale, qui était on diminuait les nitrates et on n'avait pas besoin ou beaucoup moins besoin de traiter avec des insecticides. Il a été mis sur une voie de garage et ça n'a jamais été pris en compte dans les pratiques agricoles. Mais quand on voit maintenant les taux de nitrates dans l'eau et les problèmes de pesticides dans l'environnement, on se dit que, vous voyez, que la recherche avait des solutions innovantes il y a bien longtemps et que c'est la société qui a empêché que ces solutions se mettent en place.
Mais Vincent Albouy, il y a quand même un nombre plus important d'agriculteurs aujourd'hui qui ont conscience, bien sûr, de cela, qui se rendent compte aussi que leur terre, à être gorgée d'intrants chimiques, n'assure plus finalement le rendement ou les rendements voulus, que les sols s'épuisent malgré tout et que ce n'est pas une solution.
Oui, mais ça reste encore minoritaire. Encore l'autre jour, le ministre de l'Agriculture actuel a dit qu'il s'opposait à ce qu'on interdise l'épandage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations parce que ça mettait en danger la filière agricole. Donc c'est vous dire que on a une agriculture française tellement performante qu'elle n'est pas capable de produire sans nous empoisonner et que le gouvernement soutient l'empoisonnement parce que économiquement il peut pas faire autrement. Donc vous comprendrez qu'il y a encore beaucoup de travail pour qu'on arrive à faire prendre en compte la biodiversité et les insectes.
Alors, on va essayer de passer par la musique, peut-être, pour nous donner un peu d'espoir. Vincent Albouy, nous allons entendre votre choix musical du jour. C'est une chanson d'Yves Montand.
Oui, « À bicyclette », que j'ai choisi parce qu'il y a quelques paroles qui font référence à une ancienne biodiversité, malheureusement aujourd'hui disparue. Un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes.
Nous poursuivons notre émission avec nos invités aujourd'hui sur le sujet « Un monde sans insectes, à qui la faute ?» C'est la question que nous discutons pour mieux comprendre quels mécanismes et quelles responsabilités expliquent ce désastre écologique, comment on peut agir sur ce terrain. Chercheurs, agriculteurs, apiculteurs, agences sanitaires et décideurs politiques. Et toujours avec nous, Stéphane Foucard, journaliste au Monde, auteur du livre « Le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes », un livre paru au Seuil. Et Vincent Albouy, entomologiste, ancien président de l'Office pour les insectes et l'environnement, l'OPI. Et je précise que vous co-signez le livre « Les insectes en bord de chemin » paru chez Delachaux et Niesley. Alors, je précise quand même, parce qu'il y a des données assez incroyables dans votre livre. Vous nous dites que l'EFSA, donc l'Agence sanitaire européenne, a multiplié donc les réunions. Vous en détaillez 27. 27 entre 2013 et 2019, et qu'aujourd'hui on repousse encore à 2021 la discussion sur ce sujet-là.
En fait, ce sont des réunions d'un comité technique, un comité permanent pour toutes les questions agricoles, la santé animale, etc. Et effectivement, entre 2013 et mars 2019, ce comité, qui rassemble des experts des États membres et des responsables de la Commission européenne, ainsi que des responsables de l'EFSA, ce comité s'est réuni à 27 reprises. Alors, on a fait grimper un peu le compteur ces derniers temps, puisque la dernière réunion donc comme je vous le disais, c'était en juillet, le 17 juillet. Et finalement, tout ce qui était mis sur la table par l'EFSA, donc par l'Agence de sécurité sanitaire officielle européenne, tout ce qui était mis sur la table pour améliorer les tests réglementaires d'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire simplement faire des tests de toxicité chronique sur les abeilles, faire des tests sur les larves, faire des tests sur une espèce de bourdon et d'abeilles solitaires, eh bien, tous ces tests ont été remis à plus tard. C'est incroyable, c'est-à-dire que quand on n'arrive pas à faire une politique basée sur la science, eh bien, il faut que la science change en fonction de la politique qu'on souhaite mener. Et donc, c'est un petit peu, en quelque sorte, ce qui a été demandé à l'EFSA. On a demandé à l'EFSA, revoyez votre copie, reproposez-nous autre chose pour qu'on puisse le rediscuter à partir de juin 2021. Et pourquoi c'est très grave? Dans l'intervalle, c'est-à-dire entre aujourd'hui et juin 2021, les firmes agrochimiques pourront déposer des dossiers d'homologation qui seront peut-être acceptés sur la foi de tests qui sont obsolètes et aveugles. Et une fois qu'un produit a été autorisé à être mis sur le marché, c'est extrêmement compliqué de l'en retirer. En général, les autorisations, elles sont données pour une quinzaine d'années, 15 ans. Donc, ça nous emmène là, très très loin, potentiellement au-delà de 2021.
Mais la France a interdit quand même des produits. Elle est un des rares pays en Europe à l'avoir fait et au niveau planétaire également. Et un petit peu isolé quand même, non?
La France est le premier pays en effet à avoir retiré du marché par la loi. Donc c'est une décision politique, c'est pas une décision technique. Et je pense que la nuance est très importante à saisir. Donc tous les produits néonicotinoïdes sont théoriquement retirés du marché français avec des dérogations possibles jusqu'en 2020, mais on va assez vite en voir le bout. Mais il faut savoir que c'est une situation d'exception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part une petite province des Philippines qui s'appelle Marine Duque, où on élève beaucoup de papillons, où les gens, les responsables locaux ont décidé avec raison de se passer de ce genre de produit. À part cette petite province de Philippines et la France, eh bien, les néonicotinoïdes restent au niveau international les produits les plus utilisés, en tout cas les insecticides les plus utilisés.
En sachant, il faut le rappeler, qu'en dehors des néonicotinoïdes, il y a d'autres produits chimiques potentiellement dangereux aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Et il y a aussi tout un tas de synergies qui, là encore, ne sont pas documentées entre des fongicides, les néonicotinoïdes, entre différents insecticides, etc., etc.
Vincent Albouy, et la France, quand même, s'était illustrée aussi ces dernières années par ces deux plans éco-phyto, mais quels en ont été les résultats, finalement
Le résultat, c'est qu'on devait diminuer en 10 ans de 50% et qu'on a augmenté, je sais plus, de 18% en 10 ans. Donc, comme ça se basait uniquement sur le volontariat, on voit bien que, malheureusement, le volontariat est assez inefficace, au moins dans ce domaine-là. Pour revenir à ce que Stéphane vous disait tout à l'heure sur les problèmes des néonicotinoïdes dans le monde, très récemment, on vient d'apprendre, alors le fipronil n'est pas exactement un néonicotinoïde, mais il a le même mode d'action, on vient d'apprendre qu'il y a une catastrophe au niveau de l'apiculture russe parce qu'il y a une utilisation massive de fipronil dans les cultures russes depuis quelques années. Et cette utilisation massive de fipronil est liée à la production de colza qui va servir à faire du biocarburant pour l'Europe. Donc, vous voyez que d'un côté, on fait baisser le réchauffement climatique en diminuant l'impact du pétrole parce qu'on fait des biocarburants, mais on produit ces biocarburants à grand coup d'insecticides et de pesticides en général, parce que comme justement, c'est pas pour l'alimentation humaine, il y a aucune norme, et c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que quand on essaye de solutionner d'un côté, c'est un peu comme les LED pour l'éclairage public. Vous avez maintenant une mode, on met des LED partout pour l'éclairage public, qui sont beaucoup plus attractifs pour le peu d'insectes qui restent, donc qui continuent à stériliser les milieux, alors que l'ancien éclairage à vapeur de sodium orangé était beaucoup moins attractif, mais il consomme plus d'électricité, donc pour faire des économies d'énergie, on sacrifie la biodiversité. Enfin, on n'arrive pas à faire un développement durable quand on augmente d'un côté, on diminue de l'autre, comme le bois en plaquettes, maintenant on stérilise, il y a des haies entières ou des bois qui sont transformés en plaquettes dans des conditions d'exploitation catastrophiques pour la biodiversité.
Bon, mais malgré tout, pour peut-être avoir un petit peu une touche d'espoir, Vincent Albouy, est-ce que les citoyens, à leur niveau, à leur échelle, face à cette situation, ils ont quand même la main peut-être pour jouer un rôle positif?
Moi qui suis entomologiste depuis 30-40 ans, la vision des insectes a quand même changé dans le public. Avant, c'était vraiment que négatif. Un insecte, c'était un truc à écraser. Maintenant, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. Disons, une des preuves de cela, c'est la déstabilisation d'une génération de grands-pères jardiniers par des enfants qui ont ramené de l'école des nichoirs à insectes ou un hôtel à insectes à mettre dans le jardin et qui disait, papy, faut pas, la maîtresse a dit ou le maître a dit, faut pas mettre d'insecticide. Donc, voilà. Avant, le jardin, c'était, on flinguait les insectes parce qu'ils mangeaient les pommes de terre. Maintenant, on met des hôtels à insectes. Donc, de ce point de vue-là, ça a bien évolué dans la tête du public.
Et en sachant après, que les intrants chimiques, de toute façon, sont interdits depuis voilà, cette année pour cette les particuliers, depuis deux ans pour les municipalités.
Voilà, pour les collectivités. Donc, il y a quand même des évolutions positives. Là où le disons, vous, moi, monsieur, madame, tout le monde peuvent agir, c'est avec le porte-monnaie, dans la consommation. Moi, je consomme bio, je dis toujours non pas pour ma santé, parce que j'ai très bien conscience que les molécules chimiques circulent et se retrouvent, y compris...
Dans le sol.
Dans les champs bio.
Voilà. Oui, probablement par les eaux souterraines ou par une contamination autre.
Autre. Mais par contre, je sais que quand j'achète bio, je ne contribue pas à rajouter de la toxicité à la toxicité existante. Donc voilà, par le porte-monnaie, en discernant les produits, en essayant les produits, les circuits courts, les producteurs qu'on connaît, etc. Et de les soutenir comme ça et de soutenir un mouvement qui inverserait la tendance actuelle concrètement, parce que de toute façon, c'est l'arme la plus efficace, le porte-monnaie. On l'a bien vu avec la vache folle, hein, quand on ne pouvait pas faire de traçabilité, c'était impossible, et puis effondrement de la consommation avec la vache folle, et en quelques mois, on met en place la traçabilité. Donc quand il y a une pression économique des consommateurs, on trouve des solutions au problème.
Stéphane Foucard, c'est une solution, peut-être pas la solution.
Oui, moi je pense qu'une des solutions, c'est aussi de voter. Simplement, on a la chance de pouvoir s'exprimer par le suffrage démocratique. Donc, voter, c'est aussi une option.
Merci à tous les deux. Je rappelle aussi, et on le trouve dans votre livre, et enfin dans vos livres à tous les deux, c'est aussi le fait qu'on parle des insectes, mais il y a bien sûr aussi les oiseaux d'eau, et les batraciens, les chauves-souris, le syndrome du nez blanc. Il y a des serpents victimes aussi de champignons. On sent que là, l'homme est en train probablement d'aggraver les épidémies aussi de maladies fongiques.
Ça, c'est une théorie qui n'est pas encore du tout consensuelle, hein, mais qui commence un petit peu à émerger dans la littérature scientifique, de chercheurs qui ont documenté, en tout cas chez l'abeille et chez le bourdon, un impact de ces fameux néonicotinoïdes sur leur immunité. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les abeilles, par exemple, sont effectivement plus touchées par un certain nombre de maladies. C'est pas forcément qu'il y a plus de pathogènes dans l'environnement, mais c'est aussi beaucoup parce que ces abeilles, ces insectes, y sont plus sensibles. Oui. Et d'autres chercheurs formulent cette hypothèse que je trouve assez terrifiante, selon laquelle les autres catégories d'organismes qui sont exposés, à ces, souvent insectivores, hein, les chauves-souris, les batraciens, etc., qui sont exposés également à ces produits développent de manière parallèle un affaiblissement de l'immunité, de leur immunité, ce qui conduit à ces épidémies fongiques qu'on n'a jamais vues dans l'environnement, chez des mammifères en tout cas. On n'a jamais vu 95% d'une colonie de chauves-souris disparaître à cause d'une attaque de champignons. Le champignon, il est plutôt, enfin les champignons s'attaquent plutôt à des organismes qui sont déjà immunodéprimés. Donc ça fait partie des hypothèses scientifiques qui circulent aujourd'hui dans la littérature.
Et des recherches en cours. Alors le mot de la fin, Vincent Albouy.
Pour en revenir aux champignons, c'est aussi un aspect qu'on n'a pas, alors négatif aussi, qu'on n'a pas évoqué, c'est l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'indépendamment de la toxicité des néonicotinoïdes, cette toxicité peut être multipliée, surmultipliée quand elle est associée avec une autre molécule qui elle-même d'ailleurs n'a pas seule un effet toxique particulier. Ou alors, quand vous avez affaiblissement par les néonicotinoïdes et un agent infectieux, et là la maladie va être beaucoup plus grave, et donc cet effet cocktail est assez dévastateur. Est aussi très, très dangereux. Et puis, si vous voulez, un point positif, qui est positif et négatif à la fois, c'est que les néonicotinoïdes, il y a déjà des insectes qui y résistent. Mais malheureusement, ce ne sont pas les insectes qui nous intéressent. Ce sont, par exemple, des pucerons qui sont sur nos cultures. Mais la nature a déjà trouvé le moyen de résister aux néonicotinoïdes. Sachant qu'un insecte aussi complexe et évolué que l'abeille, lui, met beaucoup plus de temps à y résister. Et que très probablement, le jour, si elle y arrive à s'adapter aux néonicotinoïdes, on sera passé à d'autres catégories de molécules qui seront dangereuses pour elle d'une autre manière. Donc, elle aura perdu tout avantage à être adapté aux néonicotinoïdes.
Eh bien, nous suivrons tout ça et puis les études, bien sûr, sur cette question de l'effondrement de la biodiversité. Je rappelle pour nos auditeurs vos livres, hein, Stéphane Foucard et Le Monde de Vin Silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes. Un livre paru au Seuil, Les insectes en bord de chemin. Vincent Albouy, le livre que vous avez commis avec Marc Giraud, François Lasserre et avec des photos magnifiques de Monique Berger. Un livre édité chez Delachaux et Niestlé. Et puis, restez avec nous à suivre L'œil du monde planète et l'escale verte. Thank you. Avec une nouveauté en cette rentrée, chaque semaine, nous prenons la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média dans l'actualité riche qui touche à l'environnement. Coup de projecteur sur une info de la semaine choisie par l'un des journalistes du quotidien. Et aujourd'hui, Stéphane Mandard est l'œil du Monde Planète. Bonjour Stéphane Mandard.
Bonjour à vous.
Alors, merci d'être avec nous depuis la rédaction. Dans la grande série publiée cette semaine sur le thème « Manger demain », on vous doit, Stéphane Mandard, l'enquête menée en Andalousie, une plongée dans l'enfer des serres de tomates bio. Il fut apparemment difficile pour vous de travailler en tant que journaliste sur place.
Ah oui, c'est peu dire. J'ai passé beaucoup de temps en amont pour caler ce reportage. Tout est parti en fait du constat que je faisais en faisant mes courses régulièrement dans les supermarchés, dans les magasins bio. En toute saison, je trouvais des tomates et je m'amusais à regarder d'où elles provenaient. Elles provenaient à chaque fois d'Espagne. Je voulais chercher à en savoir un petit peu plus sur leur origine. Donc, j'ai vu qu'elles venaient souvent d'Almeria, donc le potager de l'Europe. Donc, j'ai essayé de contacter pas moins de 6 ou 7 grosses sociétés qui produisent ces tomates bio pour leur demander, écoutez, moi, j'ai envie de faire un reportage pour connaître le secret de ce miracle d'Almeria qui arrive à produire des tomates bio toute l'année et à les égoyer dans toute l'Europe, notamment en France et en Allemagne, qui sont les deux principaux marchés. Et toutes les portes se sont fermées. J'ai essayé de contacter la puissante confédération des producteurs de fruits et légumes d'Almeria. J'aurais fait des demandes répétées. J'ai rencontré leur patron. Et à chaque fois, ils ont voulu me faire signer un 4 pages dans lequel moi-même et le monde s'engageaient d'une part à faire relire ma copie, essayer de ne pas travestir la réalité. Et à chaque fois avec la menace de poursuite devant les tribunaux espagnols. Donc j'ai refusé de signer ce bout de papier et du coup, toutes les serres ne se sont pas ouvertes à moi et au photographe qui m'a accompagné et que je salue ici, Julien Goldstein.
Donc on peut parler d'une omerta sur un marché juteux et une production bio dans ce secteur de l'Espagne où le bio ne rime pas, c'est ce que vous allez découvrir forcément, avec normes sociales et environnementales.
C'est vrai qu'il y a, vraiment une dichotomie, un décalage très important entre l'image vertueuse du bio qui est censé faire du bien à notre santé, être respectueux de l'environnement. Nous, au contraire, on a découvert un véritable désastre à la fois social et environnemental, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une surexploitation des ressources humaines, c'est-à-dire que les mêmes défauts qu'on connaissait dans l'exploitation et la production super intensive de fruits et légumes est la même dans le bio, c'est-à-dire qu'il y a entre 80 000 et 100 000 migrants qui travaillent dans des conditions sans respect des normes élémentaires du droit du travail. On a découvert des bidonvilles où il y avait plus de 4 000 personnes qui vivaient entassées. Et je vous disais aussi un désastre écologique, puisque cette région d'Almeria est certes bien du dieu soleil, puisque c'est la région la plus ensoleillée d'Europe, bien pour les tomates, mais il ne pleut quasiment jamais. Donc une surexploitation des nappes phréatiques et quasiment plus d'eau. Le désert avance quasi quotidiennement. Et l'autre gros fléau, c'est qu'il y a une pollution au plastique, parce que ces serres qui représentent plus de 47 000 terrains de football mis bout à bout, c'est 3 fois la superficie de Paris, sont faites de plastique. Et tous ces résidus de plastique sont jetés avec les bidons de phytosanitaires qui sont utilisés. On a trouvé des frigidaires, des chiens morts, voilà, une sorte d'inventaire à la Prévert catastrophique qui est jeté dans des torrents qui sont à sec et qui se retrouvent dans la mer quand les pluies torrentielles dévalent de la montagne l'hiver.
Apocalyptique, en tout cas, on le comprend par vos mots, Stéphane Mandard, et aussi par les photos que l'on découvre dans le reportage, des photos lunaires auxquelles on ne s'attend pas, dans ce lieu où nature et biodiversité devraient régner en maître. Votre article semble avoir mis l'opinion publique en émoi, y compris en Espagne.
Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, que ce soit en France et en Espagne. Beaucoup de gens se disent bon, on avait fait l'effort déjà de manger des produits bio. Maintenant, on se rend compte que finalement, les conditions de travail, d'exploitation à la fois humaine et de ressources naturelles sont pas forcément meilleures. Voilà, c'est les mêmes conditions d'exploitation que pour l'agriculture dite conventionnelle. C'est pas très surprenant parce que finalement, ce qui se passe à Almeria, c'est que ces grosses sociétés ont senti qu'il y avait un marché juteux puisqu'il y a une demande en forte croissance partout en Europe. Le label bio ne garantit pas, disons, d'éthique sociale et environnementale. Tous les gens que j'ai rencontrés, moi, les militants écologiques, les chercheurs, etc., tous disaient, voilà, il faudrait aujourd'hui changer les normes au niveau de la Commission européenne pour que dans le label bio, il y ait des contraintes, des normes sociales et environnementales beaucoup plus fortes. Et je crois qu'il y a une prise de conscience chez le consommateur aujourd'hui qui est en train de se dire, oui, c'est vrai, on peut pas manger des tomates au mois de décembre. Et tout le débat qu'il y a eu sur les serres chauffées en France symbolise, cristallise un petit peu cette poussée de croissance rapide et très brutale que subit l'industrie du bio, qui est en train de s'industrialiser, et on voit les dérives qui l'accompagnent et qui sont vraiment caricaturales à Almeria.
Rappelons quand même que donc ce secteur que vous avez arpenté fait 33 000 hectares de terres sous bâche, oui. Premier producteur exportateur bio en Europe et notamment en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. On parle des tomates, mais ils produisent aussi des concombres, des aubergines, des pastèques, des framboises. Hein.
Ils produisent absolument de tout. C'est vrai que la tomate reste le produit phare, c'est la majorité de la production. Avec près de 50 000 tonnes produites chaque année, c'est assez faramineux. Et Almeria, ce qui est assez rigolo, c'est que la tomate est le symbole de la ville. On la retrouve partout, sur les publicités en 4x3, dans le gazpacho, immense, World Guinness Book Records cet été. Et à la place du Love, I Love Almeria, ça est Tomate Almeria. Donc c'est vraiment le symbole de l'économie locale qui représente quand même 20% du PIB de la province d'Almeria en Andalousie.
Eh bien, à découvrir sur lemonde.fr et via notre site, bien sûr, votre article et ce modèle agricole en Andalousie. Je rappelle le titre de votre article, En Andalousie, plongée dans l'enfer des serres de tomates bio. Merci Stéphane Mandard.
Merci à vous, à bientôt.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Seconde partie d'émission avec une autre nouveauté, l'escale verte. Chaque semaine, nous partirons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des coins de paradis ou des secteurs en danger, des actions positives ou négatives, des événements aussi avec des chercheurs et des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction Biarritz, où une biodiversité exceptionnelle, mais souvent méconnue, fait le bonheur des chercheurs et des associations. Découvrons tout d'abord cette richesse avec un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. C'était le 31 juillet 2014.
Tôt le matin, deux fois par semaine, le voilier affrété par l'équipage de scientifiques d'Itchachalima, l'âme de la mer, cingle vers Escota, sur la fosse de Cap-Breton. Des dizaines de dauphins viennent jouer à l'étrave du voilier.
Plein de dauphins, je regarde toujours l'horizon, j'ai toujours envie d'en voir, et là, et qu'ils restent comme ça avec nous, c'est magique, quoi.
On a à peu près une quinzaine d'espèces, donc on a quand même plusieurs espèces de dauphins. Après, on a des cétacés plus imposants comme le cachalot ou le rorqual. Donc nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de faire connaître les cétacés au grand public et de leur faire partager des moments comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire passer un message global de protection d'environnement marin en expliquant le fonctionnement de l'écosystème. Donc du plancton, des poissons qui touchent aussi les prédateurs et que l'impact de l'homme va toucher toutes ces espèces.
Et nous sommes en liaison avec le directeur du Centre de la mer de Biarritz qui scrute toutes ces espèces. Bonjour Iker Castège.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le précise, en duplex des studios de France Bleu Pays Basque à Bayonne. Et j'en profite pour remercier Renaud Ricard à la technique. De votre côté, vous êtes océanographe. Quel est justement le rôle, peut-être pour commencer, pour bien comprendre dans quel univers vous évoluez, quel est le rôle du Centre de la mer ?
Le rôle du Centre de la mer est double. Le premier, c'est d'étudier la biodiversité marine. Donc il y a tout un volet, nous sommes plusieurs océanographes, à étudier la biodiversité marine au large des côtes régionales de l'Aquitaine. Donc ce sont des suivis standardisés, scientifiques, qui nous permettent de connaître l'évolution de notre biodiversité. Et puis, de manière complémentaire, le deuxième volet, c'est un côté plus éducatif, c'est donc à la fois de communiquer, de sensibiliser, notamment les plus jeunes, les enfants, à leur patrimoine écologique, à ses richesses, mais aussi à ses fragilités.
Et alors, on vient d'entendre un reportage qui a été tourné au large de Biarritz, donc dans ce fameux golfe de Gascogne. Et ce qu'on ne soupçonne pas forcément, c'est cette biodiversité, justement, les dauphins, les baleines que l'on peut y voir.
Oui, vous avez raison. Les dauphins et les baleines, qui sont des prédateurs supérieurs en haut de la chaîne alimentaire, nous traduisent bien cette biodiversité exceptionnelle que nous avons dans ce golfe de Gascogne. Vous parliez des dauphins et des baleines, mais on a 21 espèces de cétacés, donc dauphins et baleines, ce qui représente en gros un quart des espèces mondiales qui fréquentent régulièrement tout au long de l'année les eaux du golfe de Gascogne.
Alors 40 ans d'études, hein, je crois, et donc de données qui vous permettent aujourd'hui, Iker Castège, de mieux évaluer cette évolution évolution aussi des écosystèmes marins ?
Oui, tout à fait. Il est important pour nous, effectivement, d'avoir des séries de données pour pouvoir mieux comprendre comment évolue cet environnement qui est très riche, je viens de le dire, mais qui aussi évolue de manière importante ces dernières années, et d'essayer de comprendre un petit peu ce qui joue sur les évolutions fortes que l'on constate, notamment depuis le début du siècle.
Alors, qu'est-ce que vous avez constaté ? Est-ce que aujourd'hui, le fameux réchauffement climatique dont on parle régulièrement, qui a fait l'objet encore début août d'un rapport du GIEC, est-ce que aujourd'hui, avec ces données qui remontent à 40 ans quand même, est-ce que vous avez un constat et est-ce que vous vous rendez compte que oui, ces écosystèmes, vous subissez une évolution, pourquoi pas même des stress que vous identifiez aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Le golfe de Gascogne, c'est la frontière biogéographique, c'est-à-dire c'est la frontière entre les espèces d'eau chaude et d'eau froide. Ce qui fait que dans ce golfe, et notamment sur la côte basque, on a un mélange de ces espèces qui amène une très grande richesse, mais qui rend aussi ces écosystèmes particulièrement fragiles aux changements globaux. Et c'est vrai que ce changement climatique dont on parle à l'échelle internationale, il se décline très fortement localement. Et donc on étudie, oui, depuis quelques années, avec certains collègues, une des approches pluridisciplinaires, l'impact des changements océano-climatique sur les populations marines. Et on se rend compte qu'effectivement, c'est un stress majeur. Les changements climatiques, ils s'opèrent de manière rapide et depuis 40 ans et qui ont des effets importants sur les populations marines.
Et alors vous, océanographe, directeur du centre de la mer, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là avec vos équipes ? Est-ce que ces changements que vous regardez, que vous constatez, vous les accompagnez ? Vous êtes dans une situation plutôt de les corriger à certains moments parce que la pression est telle qu'on ne peut pas imaginer voir évoluer les écosystèmes de telle ou telle façon. Qu'est-ce qui se passe pour vous comme enjeu scientifique ?
Alors nous, déjà, notre premier rôle, c'est une sorte de veille écologique et d'alerter aussi les gestionnaires de l'environnement sur ce qui se passe. Donc pour cela, on réalise un certain nombre de publications, qu'elles soient scientifiques, mais aussi grand public. Et c'est vrai que bon, il y a une prise de conscience, notamment dans la région, de l'impact de ces changements climatiques, parce que c'est notre patrimoine écologique, mais c'est aussi des enjeux économiques, parce que dans les ressources marines, il y a les dauphins, les baleines, mais il y a aussi également les poissons qui sont exploités par les pêcheurs locaux. Et les effets de ce changement climatique se traduisent aussi sur une économie qui est l'économie des marins pêcheurs. Donc notre premier travail, c'est de le documenter, de l'expliquer, de comprendre mieux les modalités d'action. Et puis notre travail aussi, peut-être, de proposer un certain nombre de mesures pour pouvoir protéger cette biodiversité riche mais fragile.
Et alors on parlait de ces dauphins. Ces dauphins se retrouvent aussi parfois pris dans les filets des pêcheurs justement et viennent s'échouer. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Est-ce que vous avez possibilité de trouver des solutions avec justement le secteur économique qui est celui de la pêche ?
Oui, oui, l'idée, c'est faire la part des choses entre ce qui est dû à ces captures accidentelles. Et il faut bien comprendre que, bon, les pêcheurs, il leur arrive effectivement de capturer des cétacés, mais c'est tout à fait involontaire. Et donc, d'essayer de voir la part des choses entre ce qui est dû à l'homme, ce qui est dû à des changements plus globaux, et d'essayer effectivement de mettre en place des mesures. Ça peut être des effaroucheurs, ça peut être aussi éviter certaines zones favorables aux cétacés pour éviter justement limiter ces captures accidentelles.
Il y a des aires marines protégées dans le golfe de Gascogne ?
Tout à fait, dans le golfe de Gascogne, et puis généralement, les eaux marines, il y a 22% des eaux marines qui sont maintenant classées en aires marines protégées, mais la côte basque dispose de beaucoup d'aires marines protégées, puisque quasiment l'intégralité du littoral basque est classée en aires marines protégées. Donc c'est un statut qui est intéressant, parce que il s'agit pas là de mettre la nature sous cloche et d'y interdire toute activité humaine, mais c'est plutôt de mettre autour de la table un peu tous les acteurs du milieu marin, hein, que ça soit les pêcheurs dont on vient de parler, mais aussi les associations, les surfeurs, les maires des communes littorales, et en fait ensemble de définir des modalités, des règles de gestion pour que ce patrimoine, ces écosystèmes très riches et très fragiles, on puisse les faire perdurer et puis les léguer aux générations suivantes, voire dans certains cas les améliorer.
Et vous travaillez plutôt bien, justement, je crois, avec les associations, les bénévoles. On a le sentiment qu'aujourd'hui, la prise de conscience environnementale pousse aussi à ces actions-là, les ramassages sur les plages ou des plastiques ou des déchets, etc.
Oui, c'est vrai que ça, c'est une première bataille qui a été gagnée, c'est celle de la sensibilisation. Les associations diverses, et il y a un tissu associatif qui est assez riche sur le littoral, ont tout œuvré pour que les gens prennent conscience de la fragilité de leur patrimoine, mais aussi de la nécessité d'agir. Et ça, on a cette première bataille qui a été gagnée, je pense, de la prise de conscience. Et maintenant, on en est dans la deuxième bataille, qui est plus longue à gagner, mais celle des actions, de la mise en place d'actions. Et les associations ont pour ça un rôle moteur et formidable. formidable. Vous en citiez quelques-uns, mais c'est vrai que c'est important que chacun puisse agir pour préserver nos océans.
Je propose d'écouter cet autre reportage qui a été diffusé sur France 2 le 19 août 2019.
Une écume brunâtre qui flotte à la surface de l'eau. Pour les associations écologistes du golfe de Gascogne, le signe d'une pollution massive. À l'origine de cette mousse, selon eux, des micropolluants chimiques présents notamment dans les lessives.
C'est saturé de ces détergents pétrochimiques. Ces molécules dites de détergents pétrochimiques qui sont mises sur le marché encore et qui ne sont pas biodégradables.
Cette mousse est surtout visible lors des grandes tempêtes, comme ici à Biarritz en 2018. Un phénomène naturel spectaculaire, mais accentué par la présence de résidus chimiques, selon les défenseurs de l'environnement. Lorsque vous faites une lessive, l'eau chargée de détergent est envoyée à la station d'épuration pour être nettoyée. Or, les stations d'épuration classiques ne savent pas filtrer certaines molécules chimiques qui sont ensuite reversées dans les rivières puis les océans.
La pression du tourisme, la pression de cette pollution Iker Castège, elle se matérialise aussi par ça. On n'y pense pas forcément, hein, mais ces gestes-là, les détergents, les machines à laver, et tout ça, ça peut se déverser dans l'océan et créer ces pollutions. C'est un autre degré peut-être de sensibilisation aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont des pollutions plus insidieuses, moins visibles. Quand on pense pollution du milieu marin, on pense au plastique, des choses qui sont visibles, mais il existe effectivement des pollutions moins visibles, notamment tous ces micropolluants qui finissent dans l'océan, parce que effectivement, il est bon de rappeler, c'est une évidence, mais que les activités humaines et tout ce qui se passe sur le continent finissent inexorablement via les fleuves dans l'océan. Donc effectivement, on a besoin de mieux connaître, de mieux comprendre tous ces polluants et leur impact sur l'environnement, mais effectivement prendre conscience que c'est à la source qu'il faut traiter les problèmes, et c'est-à-dire c'est sur le continent, puisque vraiment l'océan est vraiment le réceptacle de toutes ces pollutions terrestres.
Alors un côté plus personnel, Iker Castège, dans cette escale verte, votre petit coin de paradis à vous sur cette côte basque, est-ce qu'il y a un endroit particulier qui est vraiment celui encore protégé et qui reste un paradis sur Terre?
Ouh, là, il y a l'embarras du choix. Là, vous me mettez dans une position de choisir. Je m'éloignerai justement, tiens, peut-être un petit peu du littoral pour aller sur les proches montagnes basques. Parce que c'est vrai que de ces montagnes, on rejoint ce que je viens de dire sur la prise de conscience que ce qui se passe sur ces montagnes finit dans l'océan et qu'il y a un continuum, qu'il y a une continuité et que chaque goutte d'eau qui tombe sur une crête finit dans l'océan. Et c'est vrai que on a la chance d'avoir sur la côte basque à la fois un océan riche, magnifique, mais aussi des campagnes et des montagnes. Donc on a sur un petit territoire l'ensemble de ces écosystèmes qui sont interconnectés et qui fonctionnent ensemble.
Et inversement, un secteur en danger dont il faut se préoccuper aujourd'hui peut-être au Pays Basque?
Là c'est pareil, c'est vrai qu'effectivement on en parlait, les estuaires sont un lieu à la fois riche, puisque ces fleuves vont déverser dans l'océan quantité d'éléments nutritifs qui ont été drainés sur le bassin versant, mais c'est aussi le lieu où il y a des pollutions, et c'est un lieu particulièrement sensible sur lequel il faut apporter des améliorations dans la qualité des eaux.
Bien, merci Iker Castège. Je rappelle que vous êtes océanographe, directeur du Centre de la mer à Biarritz, et on vous laisse donc retrouver vos équipes sur le front de mer.
Merci, merci beaucoup.
Merci à vous. Et comme d'habitude, informations, bibliographies, liens sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute, et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter ou sur Facebook. Dimanche prochain, nous nous intéresserons à la place de l'environnement dans l'enseignement supérieur, universités et grandes écoles, suite au manifeste d'étudiants. Qu'en est-il en cette rentrée 2019? Et nous serons notamment avec Cécile Renoir du T-Campus. Et dans un instant, c'est bien sûr la suite de mon programme sur France Culture, Être et Savoir et Louise Touré.